Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'était pas bon avec le ballon, puis on n'était pas bon sans ballon.
C'est pas un peu une méthode couée, ça, de se dire...
C'est quoi une méthode couée? Désolé, je connaissais pas.
Des bons sablés au chocolat, Michel et Augustin.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'after, after-foot. L'after est là, votre espace de liberté à vous les supporters. Le 32-16 est ouvert et Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut à tous.
On va analyser le match Lille-Lyon, mais alors la semaine démarre parfaitement. Match de folie ce soir. Si tous les matchs de la semaine sont comme ça, on en a jusqu'à dimanche.
Jusqu'à plus soif.
Jusqu'à dimanche prochain.
Oui, c'est ça.
On est sur une semaine assez étrange parce que le seul jour où il n'y a pas de match, c'est samedi soir.
C'est bien,
c'est étrange.
Bah c'est bien, tu pourras te reposer.
Tu pourras faire une petite soirée.
Tu pourras organiser un petit dîner, tu pourras partir en week-end.
Un apéro, enfin, un apéro dînatoire.
Ouais, c'est bien. En plus, il fait beau, c'est
bien. Avec des sablés, Jacques et Michel.
Ouais, c'est bien, non? Enfin, le beau temps revient, tu vas pouvoir te faire un week-end de l'Ascension.
Ouais, peut-être.
On va voir.
Bon, restons pour l'instant sur le match de ce soir. Évidemment, il y a plein de choses à raconter. Le 32-16 est ouvert, le direct studio également. N'oubliez pas nous aurons également tout à l'heure Paulo Breitner pour les dernières infos à la veille du match PSG Dortmund, parce que peut-être que demain soir à la même heure, nous aurons un club français en finale de Ligue des Champions. Vous réalisez ça? C'est peut-être pour demain.
Je préfère être demain pour le réaliser.
D'accord.
Je trouve que l'optimisme général, c'est la meilleure chose pour rebooster Dortmund s'ils avaient besoin d'être reboostés. Je déteste quand on dit trop ce qui a été dit récemment. Bon, alors j'ai entendu que le président du PSG avait mis un peu le frein. Il a bien fait d'ailleurs d'intervenir parce que tout ce que j'entendais là.
Il fallait mettre le frein avant le match aller de toute façon. Parce que même toi, Daniel, tu avais dit je les vois gagner avec des champions.
On en reparle tout à l'heure. Je te signale que samedi soir, t'étais foutu. Il y a Milan Cagliari, 20h45. Tu vas vouloir le regarder, donc ta soirée est morte.
Il est parti chercher ce truc, lui.
Allez, non, tu gueules 3 points.
Bon, oui.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tiens, Flo.
Eh ben écoute, je vais commencer par un truc que j'aurais cru ne pas dire un jour, mais Fonseca m'a déçu, et avec son changement de la 74e, je crois, en voulant assurer, en sortant Zegrova et en mettant une défense à 5, je pense que c'est le tournant du match, en fait. Bizarre de faire un tournant à la 74e alors que tu mènes. Le deuxième, c'est que c'est un match de dingue. C'est intéressant parce qu'on en a eu plein dans cette fin de saison, les Brest-Rennes et compagnie, mais qui met aussi en lumière plein de, j'en ai beaucoup parlé dans l'after cette année, plein de failles défensives, et notamment coup de pied arrêté, jeu de tête pour les Lyonnais, enfin contre les Lyonnais. Puis le troisième point, c'est que Brest a son destin en main quand même maintenant pour la troisième place, parce que Lille va à Nantes et reçoit Nice, et Brest reçoit Reims et va à Toulouse. Donc Brest est troisième ce soir et peut le rester.
Daniel.
Bon, je pense que c'est un match où chacun a eu ses moments, que ce soit Lille ou Lyon. Le deuxième point, c'est évidemment de parler des choix. Mais derrière les choix, et ce sera mon point 3, moi, j'ai pas envie de dire qu'un coach m'a déçu et l'autre plus, ou un déçu et l'autre plus, parce que moi, je trouve que dans ces matchs-là, qui sont quand même rares, hein, les matchs où tu as 7 buts, et en ce moment, c'est un peu la tendance, c'est surtout des matchs où on comprend rien. Et je crois que les critiques dans ce cas-là sur comment se déroule le match, moi j'ai toujours tendance à les atténuer, parce que si Flo dit Fonseca m'a déçu, je dis ok, très bien, mais donc pendant 74 minutes il t'a pas déçu et il t'a plu. Donc qu'est-ce qui se passe pendant...
Je vais même te dire l'inverse, parce que ça je vais être encensé, alors que je pense que c'est planté pendant 60 minutes.
Donc c'est moi, je préfère dire en fait
ses ailiers.
Je préfère dire qu'on comprend rien à ce genre de rencontre-là, et qu'à un moment derrière le travail des coachs, il faut aussi parler, et tu as commencé à le faire, des joueurs, de ce qu'ils sont capables de maîtriser, parce qu'ils ont quand même le droit d'être un peu autonomes et de maîtriser certaines choses. Et notamment, tu as souligné les carences défensives, parce que je veux bien que ce soit un mauvais choix, je suis absolument d'accord avec toi, j'aime pas du tout le choix de renforcer une défense pour tenir un score, ça m'a jamais plu. Donc 74, tu fais ça, mais derrière, quand t'es 5, bah, raison de plus pour pas te faire manger comme tu t'es fait manger au point d'en prendre un, deux, trois.
Trois.
Bah, c'est beaucoup trop. Et donc, si on dit Fonseca, ok, je veux bien dire c'est pas bien, tu t'es trompé, 74e, t'as fait un truc que t'aimes pas, que toi d'habitude en plus c'est pas dans ta nature de faire, tu le fais. Mais alors dans ces cas-là, Sage, il devient génie à la mi-temps alors que la première mi-temps il se fait manger de tous les côtés. La première mi-temps du LOSC Lyon, ça m'a fait penser à la première mi-temps du PSG Lyon. Et j'étais en train de me dire à la mi-temps, bah, quand le niveau s'élève un peu, c'est un peu compliqué pour l'OL, qui est la meilleure équipe de la deuxième partie de saison. Bon, ils ont battu Monaco dans un match 3-2, où franchement, ils méritent pas forcément. Donc tu te dis, bon, bah, regarde, PSG, raclé. Monaco, t'as été un petit peu en réussite. Là, t'es encore en train de te faire manger sur toute la première mi-temps. Lyon a quand même besoin de progrès, de faire des progrès. Et, bah non, hop, pour peu que t'aies tenté de faire une conclusion, de réfléchir un peu... la deuxième mi-temps, te dit, ouais, réfléchis pas. Les matchs en ce moment, ils sont complètement fous. Et même au niveau européen, ouais, allez comprendre quelque chose au match, au déroulement des matchs, aux tactiques qu'essayent de mettre en place les coachs.
Quand même, Daniel,
c'est très compliqué, Daniel, en ce moment. Très compliqué.
Je trouve que pourtant, ce soir, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que dans la première partie du match, effectivement, t'as Zegrovel, système lillois, et par chance aussi
avec ils allaient deux fois plus vite que les Lyonnais.
Voilà. Et Lyon, qui avec ses ailiers qui étaient nuls, les deux, parce que même si Benrahma a mis un but magnifique, il a été nul avant avec Noama.
C'est vrai.
C'est assez simple, quand même, malheureusement, pour Fonseca, de constater que quand Sage a voulu gagner le match, il a mis ses bons joueurs, parce que je pense que tu as raison, il aurait peut-être même dû, à un moment donné, Malik Fofana, peut-être falloir le mettre aussi titulaire, carrément, puisqu'il est très bon.
Souvent, quand même.
Bah oui, alors très bien, les impact players, moi, je suis d'accord, mais il faut aussi les tenter quand même sur la totalité. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais je pense quand même que là, dans ce match, là, pour le coup, moi, je trouve qu'on y comprend quelque chose. Quand celui qui, bizarrement, a voulu renforcer sa défense et a joué contre nature.
C'est trop simple, en fait.
Ouais, non, mais quand même. Et que l'autre en face a sorti ses meilleurs joueurs du banc, parce qu'il avait des meilleurs joueurs sur le banc. Oui. Eh ben oui, Lyon a gagné. Je dirais même que quand Diakité a égalisé. Alors, sur un but que Lyon doit pas prendre à ce niveau-là, sur un marquage comme ça aussi lâche.
Ah, parce que les deux que Lille prend à la fin, ils doivent les prendre.
Non, mais ce que je veux dire pour Lyon.
C'est terrible.
Moi, je pense que même ce but-là est presque anecdotique parce que la fin de match, elle est lyonnaise. C'est terrible à dire pour Lille. Mais ce Lille-là qui avait le podium dans les mains, à un moment donné, eh ben, ils ont su.
Oui,
une
tu
fin
veux
de
dire
match.
Que quand ils mettent le troisième but, déjà, à ce moment-là, c'est un peu anormal qu'ils mettent ce troisième but. Je suis d'accord avec toi.
Comme tu dis sur période, c'était pas leur moment.
Ouais, d'accord. Mais c'est ça, c'est déjà vu une équipe qui arrache un match.
Bien sûr.
Bon. Moi, je pensais que Lille allait finir par l'arracher. Et les deux buts qu'ils prennent à la fin. Quand je dis, je comprends rien. C'est que si t'as mis 5 joueurs derrière.
Oui, mais tu sais pourquoi? C'est parce que ça n'est pas la culture de cette équipe.
Ouais,
non, mais si. C'est pas la culture de Lille.
Mais tu l'as vu le but de la Gazette?
Mais si tu veux, c'est pas leur.
Non, mais regarde le but de la Gazette.
Ce n'est pas d'aller attendre dans leur surface, d'aller jouer vers l'avant.
Ok, ça reste quand même des joueurs de foot. Le but de la Gazette. Le centre arrive. La Cazette, c'est pas qu'il est tout seul. C'est que font les défenseurs lillois. Et même qu'ils soient 5, qu'ils soient 3, qu'ils soient 2.
Bon, je te dirais qu'ils jouent leur jeu.
Oui. D'ailleurs, on n'a pas vu l'image.
Ouais,
s'ils jouent leur jeu. J'imagine. Non, mais, ils jouent mal, mais ils jouent.
Donc, quand je dis, je comprends rien, toutes tes explications, elles sont trop simples, tellement simples que t'as raison.
Non, alors
que c'est
même,
trop simple.
Non, mais quand même.
Ils peuvent pas jouer leur jeu aussi mal.
Non, mais
la Cazette, il est tout seul.
Ça, d'accord, mais
quand il met son plat du pied sous la barre,
Daniel,
est tout seul.
Daniel, ça, t'as raison. Évidemment, puisque je l'ai souligné.
Ils ont pas le droit de faire ça, les mecs.
Défensif dingue.
Et je te parle même pas du dernier but de la tête.
Ouais.
Oh, allez, vas-y, au marquage un minimum quand même.
Et le but de Diakité, le troisième but lillois, tu regarderas que Mangala fait un marquage sur son coéquipier.
Donc, on peut aussi parler des joueurs, de la qualité des joueurs, de la façon dont ils défendent.
Ce qui est intéressant et vertueux, c'est de constater que quand un coach sort quand même un joueur qu'il a fait rentrer, en plus Zegrova, ce qui est déjà terrible, il sort son meilleur joueur.
Bah c'est vrai, on l'a compris ça.
Non, et attends, quand tu fais ça, tu envoies un message à tes joueurs qui n'est d'abord pas un message habituel de la part de ton coach, et ce message-là qui est de dire les gars, on flippe parce que Lyon en ce moment est plus dangereux, donc on va exceptionnellement finir à 5. Je pense que c'est un mauvais message, que n'est pas la culture de Fonseca et de Lille cette année, et que ça les a tués ce soir. Donc quelque part, ce soir, je dirais que le foot a gagné. Le foot a gagné à la fin du match parce qu'il est puni sur ce changement.
Ah
qui n'est
oui,
pas...
mais tu veux dire le foot
offensif.
Si, à 2-2, il leur dit pas en béton. À 2-2, il dit à ses joueurs, on va marquer le troisième.
Honnêtement, vu les carences défensives, je suis pas sûr qu'on puisse dire le foot a gagné.
Ce que je veux te dire, c'est que Sage a dit à 2-2 quand ses joueurs sont là dans leur moment.
Le foot a gagné dans le sens où c'était un match spectaculaire.
Ouais, voilà, parce que c'est quand même globalement, on a le droit également d'aimer un petit peu de maîtrise et un peu des défenseurs un peu solides.
Dans ces cas, c'est bien aussi de dire que quand il est bon, faut le dire, et quand il est mauvais, faut le dire
aussi.
C'était
quand même un sacré bordel ce match. c'est réjouissant, tu passes une bonne soirée, c'est tranquille. Quand t'es supporter de Lille, tu dois être énervé de ce qu'ont fait tes joueurs après la 74e, et même ton coach dans son
moi,
choix.
Je pense que Fonseca, quand t'es lyonnais, il doit se dire j'ai merdé. Ouais. Et Zegrova, il doit se dire dans le vestiaire qu'est-ce que m'a fait le coach ce soir.
Bah, exactement. Sûr. Oui, non, mais ça t'as raison. Mais comme pendant 74 minutes, surtout la première mi-temps, ils ont survolé. Enfin, franchement, tous leurs mouvements, ça allait deux fois plus vite que les Lyonnais. Tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, l'OL? Ils les regardent, quoi. Tout allait plus vite. Mais les passes, les courses, tout était.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir.
Ils l'ont pas tenu tout un match.
Par rapport à, on parle souvent des neufs. Tu vois le rôle de David ce soir, qui ne marque pas, mais qui fait un boulot de neuf terrible pour tous ses coéquipiers, dont profitent les milieux. Et c'est vrai que là, tu vois, t'as un système installé. Après, c'est vrai que voilà, on n'a pas tout compris, mais 74e, c'est quand même tard, hein, tu vois, et tout a basculé à la fin. Mais Lyon, là-dessus, ils ont une stat dingue sur le fait que pendant leur mauvaise période, dès qu'ils étaient menés, ils ne revenaient jamais. Et depuis la bonne période, dès qu'ils sont menés, ils reviennent toujours.
Mais Diakité, il met le 3-2 à quelle minute? 83?
85, je crois. Hein, ouais.
Voilà. 83, 85. Donc, t'imagines quand même que jusqu'à la 85e, dans ce match que Lille a d'abord survolé, puis pas maîtrisé, ils vont arracher un match où t'aurais reçu à 5 minutes près, tu reçois des supporters lillois dans l'émission qui sont en kiff, qui te disent, ouais, il aurait peut-être pas dû faire ça, mais le changement de Fonseca aurait été anecdotique dans une première mi-temps. Survolé dans une fin de match où tu vas arracher, on aurait parlé de caractère lillois qui même dans la période, c'est pour ça qu'en fait c'est de plus en plus dur vraiment, hein, même les matchs au niveau européen dans certains championnats, c'est de plus en plus difficile d'analyser, on est dans une sorte de hurrah football permanente. Tu te souviens de cette expression, le hurrah football, des expressions des années 80? On est dans ça maintenant, c'est très difficile parce que les joueurs, on a également le droit de s'interroger sur ce que font les joueurs dans la maîtrise qu'ils sont capables d'avoir de leur sujet, de leur rôle de défenseur, de milieu ou d'attaquant. Et là, en 5 minutes, ce sont les Lyonnais qui kiffent et qui vont mettre en avant le caractère depuis que Pierre Sage est arrivé. Cette équipe dont on fait sortir du banc des joueurs qui vont faire la différence. On est dans un football qui ressemble de plus au sport américain où t'as de moins en moins de tactique, de moins en moins de maîtrise, et où t'as des mecs qui vont faire des différences, où t'as un Lacazette qui tout seul dans la surface va se retrouver peinard pour mettre un plat du pied.
Ou un 0-0.
Eh ben, en fait, non, évidemment, je préfère pas du tout les 0-0. Je pense qu'il faut juste être lucide et pas trop encensé. Tu vois, il faut être un peu mesuré sur ce que tu vas faire.
Alors,
juste un bémol sur ce que tu dis, Daniel. Moi, je pense quand même que quand tu as un coach comme Pierre Sage qui dit à ses joueurs, là, à ce moment du match, on va aller le gagner, on va aller le faire, c'est pas juste le hasard.
Dit, comment tu sais qu'il l'a dit?
Bah non, mais quand il fait rentrer Fofana. Mais
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Non, mais c'est parce
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à ce moment-là?
Il va gagner le match. Et à 2-2, il bétonne pas, il va aller gagner le match. Et l'autre, il veut pas aller le gagner.
Dans un instant, on parle de Lyon qui a gagné.
Si
ensuite,
ça marchait à tous les coups de faire ça.
Il y aura l'évaluation, les infos du jour avant le match de demain.
Ça n'a pas marché.
Il y avait d'autres rencontres internationales ce soir. Sachez que Udinese et Naples ont fait un partout. L'Atalanta, avant de jouer l'OM jeudi, a gagné à la Salernitana aujourd'hui 2-1. Et puis en Angleterre, Crystal Palace a largement battu Manchester United 4-0. Et puis je vous signale également, vous qui suivez l'After en podcast ou en direct en ce moment et qui êtes abonné au podcast de l'After, qu'on a une superbe nouveauté depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous abonner à un podcast natif, un podcast qui n'est pas dans la chaîne de l'After, hein, donc il faut que vous alliez le chercher pour vous abonner. Ce sont les archives de l'After. On vous a mis en ligne, on va vous mettre en ligne dans les semaines qui viennent, tous les after mythiques. Là, on a commencé par le PSG Barcelone 4-0. Vous savez, le match aller de la remontada.
Voilà. Le ?
Le match aller de la remontada.
Ah, j'étais pas là, j'étais en vacances.
Ah, bah écoute. mais si tu veux réécouter l'after où t'étais pas là, il est en ligne. Voilà, Florent était là d'ailleurs.
J'étais dans un magnifique endroit, je me souviendrai toujours.
On va comme ça, au fil des semaines qui viennent, publier quelques pépites, les plus beaux afters de l'histoire.
J'ai pas réécouté, mais j'ai, paraît-il, encensé Unai Emery, à juste titre, me semble-t-il.
Mais t'as bien fait, c'est un super coach, ouais. Bien sûr. Ouais.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec l'OL au programme.
Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Ouais, oui, on vous sent touché, là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h18, Florent Gautreau et Daniel Riolo sont là ce soir. Grande semaine Coupe d'Europe. Hein. Demain soir, on sera là jusqu'à minuit et demi au direct du Parc des Princes. Ensuite, il y aura la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Jeudi, pareil après le match de l'OM. Bref, semaine qui promet. Lyon a gagné. On va donc démarrer par Lyon. On a Mehdi au 32-16. Qui est là, Mehdi? Bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel et salut Flo.
Salut.
Bon, Mehdi, la deuxième partie de la saison lyonnaise est évidemment absolument extraordinaire, avec la Coupe d'Europe maintenant plus que jamais en ligne de mire, non ?
Ouais, je pense. Là, quand tu regardes ce qu'a fait Lyon, moi j'ai dit avant le match, au standard, j'ai dit si Lyon fait juste nul ce soir et gagne les deux derniers matchs, je pense qu'ils seront pas loin de la zone. Mais là, quand tu gagnes
Lyon est septième, à deux points de Lens qui est sixième.
Voilà. Après, bon, j'ai vu que Marseille aussi avait un calendrier plutôt favorable aussi, donc, mais il te reste un Rennes-Lens de la prochaine journée. Il y a encore des points à distribuer. Il y a encore des gens qui vont se prendre des points entre eux. Si toi, tu peux en profiter, vas-y. Et puis après, toi, tu joues ta finale de Coupe de France libérée. Tu te dis, quoi qu'il arrive, je la gagne ou je la perds. Je serai soit en conférence, soit en Europa, soit tu seras en Europa League, soit tu seras en Conference League. Et vu que tu étais le dernier, c'est miraculeux. C'est ce que fait Pierre Sage. On ne souligne pas assez. Miraculeux. Voilà.
Mais tu sais qu'ils ont fait le repérage du stade pour la finale en plus.
Oui, j'ai vu que.
Lyon est l'équipe d'Europe dans les grands championnats qui a pris le plus de points cette saison après avoir été menée. Enfin, depuis l'arrivée de Pierre Sage en tout cas. Mmh. 22 points. Après.
Mais bon, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, et Flo faisait allusion à 2017. On a une tendance aujourd'hui à créer des génies un peu trop vite. Il faut rester calme.
Non,
Daniel,
pas encore au
sagisme. Mais j'adhère à rien du tout. Il y a eu un nouveau discours. Daniel, c'est certainement les joueurs sont survoltés. Ils font des matchs assez absolument incroyables en ce moment. Maintenant, il faut arrêter. Une semaine, c'est Fonseca le génie. Une semaine, c'est Luis Enrique le génie. Une semaine, c'est Pierre Sage le génie. Une semaine, c'est Eric Roy le génie. Daniel, en fait, on a des génies partout.
Je remarque que c'est jamais Patrick Vieira.
Non, mais on est d'accord qu'il y a quand même beaucoup de génies dans le football français et dans le football en général. Il y en a un peu trop. Xabi Alonso est un génie. Bon, Guardiola, évidemment, c'est le maître des génies. Donc après, il a tous ses fils. Je l'ai dit. Donc après, on a qui Eric Roy. En fait, il y a des génies partout. Calmez-vous avec les génies, quoi. Il y a vraiment un peu trop de génies dans le football.
C'est toujours un génie, Lebris.
Bah, non, Lebris, il était l'année dernière. Et au début de la saison, l'Europe entière s'arrachait Lebris. Après,
nommé parmi les meilleurs entraîneurs de l'année.
Au début de la saison, mais attends, mais fais dans l'ordre. Au début de la saison, Farioli était rangé dans les génies. Enfin, vraiment, à un moment, il va falloir arrêter. C'est beaucoup trop.
Et jeudi soir, Gasset sera un génie.
On est en délire. Bah, Gasset quand il est revenu. Chaque semaine, il y a un génie.
Mais calmez-vous. Si tu restes calme, tu auras des génies sans bouillir.
Oui, Mehdi, vas-y.
Non, mais Daniel, il n'a pas compris le point. Je dis juste que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il part d'une place, et c'est tout. Je te dis pas que c'est un génie, c'est le futur Guardiola. Je t'ai pas dit ça, je t'ai juste dit ça. Ok? Là, le point de départ, il est là. Aujourd'hui, Lyon arrive à gagner un match 4-3. Ils ont joué 30 minutes, Lyon.
C'est là que le foot aujourd'hui propose des choses, et c'est pour ça que on ne parle pas assez, en fait, des joueurs. Les joueurs ont des qualités, ils sont intermittents, ils sont de plus en plus intermittents. Il faudrait quand même prendre, si vous prenez dans un contexte beaucoup plus large, on pourra parler cette année de la saison d'un De Bruyne, d'un Haaland, d'un Mbappé, de Lewandowski, des courants alternatifs, de Bellingham et des entraîneurs. En fait, le football est sur courant alternatif en permanence maintenant. Avec des matchs complètement fous, des mi-temps, un coup oui, un coup non. On est de moins en moins dans la continuité. Franchement, je trouve qu'on est un peu perdu.
Vous êtes un peu perdu.
Je sais pas si vous êtes d'accord.
Mais des matchs comme ça, c'est quand même réjouissant. J'ai l'impression que t'es pas content.
Ah non, moi j'adore. Mais derrière le match réjouissant, il ne faut pas soit tirer la conclusion qu'un tel est un génie, ou soit qu'un tel est une pipe. Il faut faire attention. Il faut accepter la folie, mais dans la folie, puisque c'est un match fou, la folie ne doit pas nous porter à tirer des conclusions.
Non, d'autant que, et là je te rejoins sur la démonstration des génies, sur ce qu'a fait Sage aujourd'hui. Parce que moi j'étais prêt à dire, et je le maintiens même après la victoire, puisque on sait la victoire et la défaite peuvent être deux menteurs, comme disait Kipling. Sage s'est trompé dans sa compo de départ. Parce que ça
comme
fait
au parc.
Même, comme au parc. Parce que ça fait quand même un moment que tu as envie, et tu le vois très rapidement dans le match, que de voir autre chose que Benrahma et Nouama. Même Nouama, il le maintient finalement un peu plus longtemps sur le terrain, il ne le sort qu'un peu plus tard parce qu'il préfère sortir Matic. Mais Benrahma, Nouama, tu pouvais très bien les sortir à la 45e. Donc, si tu vas par là, là je suis d'accord, c'était Mehdi hein, oui, qui est avec nous, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est 30 minutes de très bon Lyon. Parce que il faut savoir que je crois avant la casette, je crois que tu n'as pas de frappe cadrée lyonnaise avant dans la première heure de jeu. Tu n'as pas de frappe cadrée. Donc effectivement, là où tu as raison sur le fait d'encenser, je pense que ce soir dans la compo de départ et dans l'animation, il y a une erreur. Mais là où je ne te rejoins pas Daniel, c'est que c'est pas les joueurs justement. C'est que si Sage, lui, ne se sert pas plus vite de ses hommes en forme, à savoir Cherki et Fofana, surtout Fofana, bah, c'est quand même un petit peu de sa faute. C'est, tu vois, c'est, oui, les joueurs d'accord, mais c'est lui qui fait la compo. Alors il se rattrape, il fait les bons choix à la fin, ok, mais il est vrai aussi, et là je te rejoins, le début du match, il est aussi pour lui. Enfin, mauvais début de match.
Mais bien sûr, mais n'oublions pas également ce qu'a apporté, c'est, alors tous ne le font pas, les cinq changements, mais en tout cas, ça donne la possibilité de penser c'est le match autrement.
Au coach,
donc
comme ça.
Quand je dis qu'on est de plus en plus dans une américanisation du sport en général, du foot, comme on le voit, c'est que ne serait-ce que d'avoir la possibilité, même si tu le fais pas, quand tu le fais, de renverser, sans parler de quand tu changes toute une équipe dans un mercato, de changer dans un match, d'avoir autant de cartouches possibles. Bon là, on a carrément eu le délire ce soir de faire rentrer un joueur qui aurait potentiellement pu être titulaire.
Oui, qui est peut-être le meilleur de l'équipe.
Qui ne l'est pas. Qui rentre, qui met un but et qui sort avant la fin. Si là on parle pas de folie, moi je veux bien. Il va falloir peut-être qu'on se réadapte un petit peu au foot qui est un peu en mutation en ce moment. Sans parler d'un coach génie qui se trompe à la 74e, puisque lui aussi était dans la catégorie. D'ailleurs, dans la prochaine revue de l'After, on l'a même nous élu meilleur coach de Ligue 1. Tu vas voir qu'en deux mois, il va nous faire mentir. Il va passer pour un tocard.
On l'a noirci.
C'est bon, j'ai déjà imprimé.
Et il est à ce stade de la saison. Il est à ce stade de la saison, probablement extrêmement demandé un peu partout en Europe. Peut-être que ça joue sur sa fin de saison. Rappelons quand même que Steele a lui aussi été rangé dans la catégorie génie. Et ça s'est terminé, mais plus qu'en autre boudin, à Reims, où à partir du moment où il a dit « je vais partir », plus personne n'a adhéré. Le foot, ça n'est plus surtout que du tableau noir et un mec qui fait de la tactique. On a l'impression que les joueurs sont isolés, tout seuls.
Les cinq changements, c'est quand même une arme. Plutôt côté ouais. coach que côté joueur. C'est oui. les coachs qui ont la main, t'as raison, c'est américaine.
Mehdi,
Gilbert, je vais juste parler vite fait du match parce que il est survolté, on peut pas en placer une. C'était juste pour lui dire qu'en fait, même Lyon, déjà, les deux premiers buts, ils sont évitables. D'accord? Lyon prend trop de buts cette année, c'est pas la peine, c'est défense, c'est
catastrophique. Oui, c'est vrai que le marquage,
ils sont évitables. Et c'est sûr que les trois qu'encaisse Lille à la fin, ils sont pas évitables du tout.
Si, mais moi je te dis si, mais tu vois par exemple, moi il y a un joueur aujourd'hui qui a fait la diff, pour moi c'est Maitland Niles. J'aimerais savoir si Daniel, la demi-saison que fait Maitland Niles, il est vraiment un super couteau suisse.
Oui, donc ce soir c'est surtout la renaissance de Mbemba Baldé.
Oui, voilà, donc oui. En fait, un Mbemba Baldé qui était bon pour la poubelle va devenir un héros. Maitland Niles qui est capable de faire une demi-saison et à l'intérieur d'une demi-saison des moitiés de match, il va devenir formidable. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas que je veux pas en dire du bien, c'est pas ça. C'est que l'américanisation fait ça. On va bientôt avoir un mec qui va rentrer pour. Il va être un spécialiste des 10 dernières minutes. On va avoir un spécialiste du premier quart d'heure. Mais écoute-moi, on va aller vers un truc. On est en mutation d'un nouveau football. Tu sais, ça fait quand même un an ou deux qu'on parle de ce nouveau football. Quand je vois les matchs délirants, le 4-4, le 4-4 Manchester City Real, plus le match retour où tu vois un Real Madrid qui joue à limite avec un autobus, chose inconcevable normalement pour ce club, des équipes qui font des moitiés de match et jouer 30 minutes ça suffit pour aller gagner un match 4-3. Pardonne-moi de considérer qu'on est dans une folie qui est de plus en plus difficile à comprendre.
Mehdi, vas-y à toi.
Non, c'était pas Daniel, ce que je te dis c'est que je te dis pas que c'est normal, je te dis juste que Lyon la première saison, ils avaient pas de balle, enfin la première partie de saison, c'était chat noir, là c'est chat blanc. C'est
tout
ce que je te dis. Je te dis ça.
Oui.
C'est
ce que je veux dire. Et que le discours d'un coach, effectivement, peut faire varier beaucoup de choses.
Mais quand on passe de blanc à grosso, on voit vite que ça va pas, etc. et qu'on voit là tout ce que fait Pierre Sage, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu peux, voilà, c'est David Copperfield, le gars. C'est juste, je te dis juste.
C'est vrai, t'as raison.
Non, mais attention, en plus, en dehors de tout ça, il y a deux choses. Il y a des données importantes, objectives.
Parce que Copperfield, il faisait disparaître des trucs, hein, donc ça peut être dangereux.
Ouais, c'est Gérard Majax pour les plus anciens.
Gérard Majax.
Et tu as.
Il faisait quand même des tours pourris, les allumettes, hein.
Copperfield a quand même.
J'ai revu des extraits ce week-end.
Non, Majax, il était très fort.
Il a fait réapparaître Claudia Schiffer, quand même,
Copperfield. Non, justement, il a réussi à inventer une liaison avec Claudia Schiffer, ça a été son plus grand tour.
Tiens, on a Olivier Létang qui est en zone d'interview en direct là. On va écouter ce qu'il dit le patron lillois.
Ouais. Vous avez raison hein, sur le résultat. Et si je suis sincère, on s'est pris un train dans la gueule. D'autant plus avec le scénario, parce que 2-0 à la mi-temps, vous avez vu le match comme moi. Sur la deuxième mi-temps, on a manqué de maîtrise. Mais on a la chance de marquer ce but à la 87e, c'est ça? Et de mener 3-2 à la 87e avec 5 défenseurs dont 3 centraux. Donc voilà, c'est un scénario qui est difficile, qui est cruel. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, le sport de haut niveau, il n'y a pas de place pour ceux qui sont faibles. Donc le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est de remobiliser tout le monde, de repartir. Il nous reste 2 matchs pour aller chercher quoi, on ne sait pas encore. Mais voilà, il nous reste 2 matchs à gagner. Dès dimanche à Nantes, ce sera difficile. Il y aura la réception de Nice après. Mais je vous le dis à chaque fois, ça vous peut paraître surprenant, c'est loin encore. Mais voilà, aujourd'hui, il faut retrouver de l'énergie, il faut retrouver de la force pour remobiliser tout le monde, repartir et gagner ce match à Nantes.
Voilà, pour Olivier Létang, Lille, on l'a pas dit, enfin, on va en parler, Lille, mais n'a plus son destin entre ses mains.
Si, je l'ai dit dans mes 3 points.
Tu l'as dit dans mes 3 points.
Voilà, non, mais c'est vrai, Brest, t'as raison, ouais. Brest est 3e, et Brest, en plus, a un calendrier sur le papier plus simple.
Il pourrait y avoir une finale.
Oui, attention, parce qu'on disait la même chose de la réception de Nantes.
Oui, mais là, en l'occurrence.
En gros, ils pouvaient enchaîner 3 victoires, Brest.
Non, mais
et s'ils récupèrent pas tout leur, parce qu'ils n'ont pas un banc. Ouais. Et je sais pas dans quel état sont Elles Melou et Del Castillo, mais Brest ne peut pas faire sans des hommes aussi importants.
Mais Lille à Nice à la fin, en dernière journée.
Le Lille-Nice,
Nice qui sera fatigué parce qu'ils auront joué dans la semaine contre le PSG, plus enchaîné et tout.
Il faut qu'ils gagnent contre le PSG pour qu'il y ait une finale.
Enfin, je trouve que Brest, qui a 2 points d'avance et qui joue Reims et Toulouse versus Lille,
évidemment,
qui a 2 points de retard.
Normalement, ils sont mieux placés.
Qui joue Nantes et Lille. Plus compliqué. Nantes et Nice.
Bon, je remercie Mehdi au 32-16. Rien à rajouter sur Lyon, les gars?
Non. Ils vont aller chercher l'Europe. C'est miraculeux par rapport à leur saison. Quoi.
Allez, Lille à venir. Le 32-16 est ouvert. Et ensuite, les infos de veille de match de PSG Dortmund. Paulo Breitner sera avec nous. Tiens, petit rappel. Si vous voulez assister au prochain spectacle de l'After, le 11 octobre prochain, à la salle Playel à Paris, allez vous procurer vos places. Il y en a encore de dispo, donc profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. A tout de suite dans l'After.
Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h33, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là. Après Lyon, parlons maintenant de Lille. Pas mal de réactions donc concernant Fonseca. Hein, c'est les principales réactions des supporters ce soir. Vous avez souvenir d'une dernière fois qu'on a eu comme ça un joueur un peu emblématique d'une équipe rentrer en cours de match et sortir avant la fin? C'est assez inédit. Hein.
Ah bah oui, déjà
rentrer. Que ce soit un petit jeune qui ressort.
Mais non, mais même souvent ça arrive parce que t'as pris un carton rouge ou parce que.
Ou à blesser. Sinon
c'est quelque chose qui n'arrive pas. C'est rarissime.
Et c'est vrai
on
que.
On écoute Fonseca. On va dès qu'on a ses premières réactions là-dessus.
C'est vrai que déjà la gestion c'est intéressant parce que la gestion de Zegrova par Fonseca est déjà assez particulière cette saison. Alors il explique lui-même, hein, il le dit en conférence de presse qu'il faut le piquer. Et qu'il le sort, il ne met pas forcément titulaire tout le temps parce que il l'a même dit clairement en conf de presse, il fait un très bon match contre le PSG, Zegrova, et puis derrière il est pas bon dans les deux suivants. Donc en gros il estime que c'est un jeune joueur qu'il faut polir et que voilà il se servait déjà de cette façon-là, ce qui expliquait d'ailleurs sa présence sur le banc ce soir au coup d'envoi. Après, c'est un fait de jeu, puisqu'il y a la blessure de Yazici qui permet à Fonseca de faire rentrer Zegrova, qui lui met quand même ce but très vite. Alors, c'est vrai que souvent, Zegrova a d'ailleurs été meilleur à un moment donné en entrant aussi,
peut-être, plutôt qu'en titulaire. Il avait prévu de faire rentrer beaucoup plus tard, voire même pas du tout, je sais pas.
Ah, si, plus tard, c'est sûr. Pas du tout.
Il semblerait un fou qui ne rentre pas.
Mais. Plus tard, c'est sûr. Mais après, effectivement, dans le choix du joueur, après, c'est aussi un choix de système, c'est-à-dire que il a gardé évidemment son neuf. Parce que toi, tu pourrais très bien sortir un autre attaquant. Il a choisi de garder son neuf. Je pense pas que ce soit en aucun cas une sanction. Mais en revanche, pour Zegrova, quand même, dans cette saison, il s'est fait quand même balader beaucoup entre titulaire et remplaçant. Je pense que là, cette sortie-là, enfin cette entrée-sortie,
non, dans son titulaire pas dans cette équipe.
Non, il le gère comme ça.
Souvent,
justement.
Qu'il le gère, mais il est considéré comme un homme qui fait la diff et comme un homme fort de cette équipe.
Mais il le gère, si tu veux, particulièrement. Oui. Je pense que là, ça. Là, pour le coup, je serais assez d'accord avec le joueur s'il trouvait ça quand même un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que d'être outre que le choix tactique était pas bon, ça tombe quand même sur Zegrova qui est décisif.
Dans ce cas-là, le coach il a pas tous les droits, c'est pas le patron absolu.
Il a tous les droits, mais il s'est trompé.
Ah oui.
Il a tous les droits.
C'était juste pour savoir si les coachs ont toujours tous les droits ou pas. Quand c'est un génie ou pas un génie.
C'est facile. Je veux pas trouver d'excuses. Dit-il en deuxième mi-temps. On ne voulait pas jouer, on ne voulait pas le ballon. C'était difficile de défendre avec Zegrova, dit-il. C'était la stratégie de le faire démarrer sur le banc, de le sortir en deuxième mi-temps.
Du banc.
Voilà, dit-il, du banc, exactement. Donc, on a eu des difficultés à défendre avec lui. Alors, j'ai décidé, comme on n'avait pas beaucoup le ballon, de le sortir. Voilà l'explication de.
On comprend rien, cette explication.
De Fonseca.
Je comprends pas grand chose. Enfin, si, je comprends qu'il était pas satisfait.
C'est gens que j'ai fait rentrer Alexandre pour bien défendre.
Voilà. Mais j'ai bien compris qu'il était pas satisfait de ce que faisait Zegrova.
Il dit, bah oui, évidemment. Du coup, je regrette.
Alors, moi, j'ai pas le banc de touche. J'ai pas le banc de touche sous les yeux. Moi, je peux entendre tout à fait cet argument-là. Si t'as un joueur qui ne défend pas, c'est intéressant par rapport à ce qu'on voit parfois du PSG, notamment. Mais. Dans ce cas-là, pourquoi tu sors Zegrova et surtout tu passes à 5 derrière? Parce que tu peux très bien aussi renforcer ton milieu de terrain et ne pas changer à ce point. C'est l'idée d'être sur ton but et de devenir un Lille qui n'est pas le Lille qu'on attend. Parce que tu sortes un joueur qui ne respecte pas, on va dire, tes consignes, pourquoi pas? Mais je trouve que ce choix-là est surtout lié, corrélé au fait qu'il s'en est servi pour mettre une défense à 5. Moi, je trouve que c'est ça qui a plombé Lille, surtout. Donc oui, je pense qu'il y a quand même, in fine, une erreur de Fonseca.
Encore une fois, je veux bien qu'il ait fait l'erreur, mais les deux derniers buts lyonnais, justement, comme a dit Olivier Létang, que j'ai trouvé bon dans son analyse, on est 5 derrière. 3 défenseurs centraux, le mec il est tout seul au moment de reprendre le ballon
et l'autre il est tout seul
pour faire la tête. Je veux bien parler et me casser la tête avec les changements tactiques, mais enfin à un moment t'es défenseur, t'as un avant-centre comme Lacazette, colle-lui au cul quoi, empêche-le de prendre le ballon, il est tout seul, quand même tout seul.
Ce match était une catastrophe de marquage de deux côtés.
Les mecs ont quand même le droit
de diacquiter.
Pareil, à un moment les joueurs, et moi je trouve qu'on décharge de plus en plus les joueurs de leurs responsabilités quoi.
Alors je suis d'accord sur
quand même.
J'en avais fait un avis.
Le plan d'ensemble, les intentions de jeu globales, évidemment qu'elles sont importantes et que c'est toujours ce qui nous passionne. Après, les gars, sur le terrain, défendez quoi.
Sur les gestes défensifs en France, j'en parle.
Merci.
Non, mais les gestes défensifs de base, je te parle du marquage, je te parle de l'intervention sur les duels. On est une carence terrible dans les défenseurs.
Globalement, dans le football européen, niveau défensif a baissé.
Bien sûr. On a beaucoup de contre-attaquants, on a beaucoup de joueurs qui veulent immédiatement repartir de l'avant.
Exactement.
Mais pas assez de joueurs qui gagnent les duels et qui marquent
C'est également une évolution de notre football. C'est pas pour nous déplaire parce que ça fait du spectacle. On aime bien. Il faut également dire que ça a commencé par les latéraux qui défendent de moins en moins parce qu'ils montent et tout. Et on était tous d'accord parce que effectivement ça rend le football plus spectaculaire. Les centraux, aujourd'hui, tu te mets à faire une liste des bons défenseurs centraux en Europe. Ton stylo, à un moment, il va s'arrêter. Tu vas être en train d'écrire et puis tu vas te dire. Ah oui, lui, mais l'année dernière, il était bon, puis maintenant, il est moins bon, puis il y a deux ans, on pensait que c'était une pipe.
À Paris, dans la meilleure équipe en France.
Oui, bien sûr.
On se pose des questions sur Marquinhos, on se pose des questions sur Beraldo, parce que l'exemple de Beraldo est un très bon exemple. Très bon joueur de foot, mais pas un assez bon défenseur.
On va pas parler de la demi-finale de demain, mais de celle dans deux jours, avec deux équipes plus qu'expérimentées de la compétition. Défense centrale du Real, où ils ont perdu tout le monde et ils sont obligés de jouer un coup avec Nacho, un coup avec Tchouaméni, associé à Rudiger qui tient un peu la baraque. Le même Rudiger qui, il y a 3 ans, était à jeter aux orties tellement il était mauvais par la moitié de l'Europe. celle du Bayern, on n'a jamais compris. Pourtant, sur le papier, ils ont que des mecs qui étaient demandés par l'Europe entière. Bon, bah voilà, le pauvre Sud-Coréen là, qui s'est fait endormir par un appel, contre-appel d'école élémentaire par un Vinicius. Ouais, les défenseurs, s'il faut également le dire, quoi. C'est
de plus en plus dur. On passe de Lille à Lyon, mais voilà Pierre Sage en conférence de presse, on va écouter.
Et que l'histoire avait été belle jusqu'à maintenant, mais que ça pourrait être fini. Et non, il y avait encore la possibilité d'inverser la tendance, et les joueurs ont eu les ressources mentales pour le faire, et surtout la capacité tactique à déséquilibrer un bloc bas en attaque placée de manière différente sur 3 buts. Donc bravo à eux.
Allez, encore une réponse de Pierre Sage, conférence de presse.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'entrée fantastique de Mama Baldé aussi, qui est décisif 2 fois, notamment avec cette passe magnifique et ce but?
Alors, on avait à cœur de continuer à attaquer sur notre côté droit parce que Ernest Nouama avait beaucoup appuyé sur Ismaili et on pensait que c'était un point de fébrilité de notre adversaire. Donc, ça s'est avéré payant sur le 2 partout, je crois. Quand il centre pour Malik Fofana qui vient fermer au deuxième poteau. Et à l'inverse, sur le but qui marque de la tête, il est à la réception d'un centre de Clinton Mata. Donc ça ressemble un peu au but qu'on a marqué la semaine dernière avec Saïd Benrahma sur un centre de notre côté droit. Et ce qui est bien, c'est que les joueurs sont vraiment dans l'idée de tout lâcher, de prendre un maximum d'initiative dans des moments où on aurait peut-être pu fermer en se disant que 3-3, c'était pas si mal que ça. Mais on est une équipe ambitieuse. On se doit d'avoir les actes à la hauteur de notre ambition, ce qu'on n'a pas été capable de faire en première mi-temps, parce que même si on a la balle de 1 partout 2 fois, je pense que la qualité de notre jeu n'était pas du tout à la hauteur. Par contre, en deuxième mi-temps, voilà, on s'est créé beaucoup de situations encore, et je pense que, sans dire que la victoire est logique, mais en tout cas, on s'est donné les opportunités d'y croire.
Voilà. Pour Pierre Sage.
Ça c'est bien ce qu'il dit sur le fait que cette équipe dorénavant a une sorte de mentalité à vouloir, même après la première période où ils sont vraiment à la rue, ils sont vraiment dominés, j'ai l'impression qu'ils jouent plus qu'un ton en dessous, d'être capable de revenir comme ça avec des intentions toujours aussi importantes et ambitieuses.
Tu peux pas penser que le coach est étranger à ça.
Bah bien sûr que non, pour le coup. Pour le coup, non.
Revenons à Lille.
C'est pour ça que je te parlais d'intentions. Je te parle d'intentions globales qui sont importante à souligner, les intentions. Après, ce qui se passe sur le terrain, là, en revanche, je suis moins d'accord quand il dit Baldé, il centre, il fait un super centre. Oui, ok. Alors, super centre, si c'est mettre le ballon au bon endroit, c'est un super centre. Maintenant, les défenseurs, c'est 2 pipes, quoi. Ils regardent la casette tout seul. Après, le jeu demande faute. C'est la grande phrase.
Le centre de Baldé, c'est sur le dernier, le but de Fofana.
Non, moi, je sais pas. Sur le but de la casette, ouais. Oui, pardon. Le jeu demande faute. Oui, encore faut-il aller les provoquer. Donc là, on revient au grand principe et à l'ambition de jeu. Ça, je la mets en avant. Non, ça enlève pas tout ce que je disais sur les qualités de certains joueurs. Il faut faire attention aussi, quoi.
Hugo est là, supporter lillois. Salut Hugo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Florent et bonsoir Daniel.
Bonsoir Hugo.
Bon, tu retiens, tu veux aussi toi montrer du doigt Fonseca ou autre chose?
Alors Fonseca et les joueurs, parce que mine de rien. Moi, honnêtement, vous avez dit que les Lillois sont mis à l'état de jouer à partir de la 74e minute. Je pense surtout qu'il a commencé à faire ses changements à la 74e minute, mais dès l'entrée de la seconde mi-temps, on a arrêté de jouer.
On a juste parlé de la 74e, c'était juste pour le changement, mais on l'a dit que la deuxième mi-temps, déjà, Lille avait baissé, bien sûr.
Ah, d'accord. Autant pour moi.
Oui.
Mais c'est surtout que... Il y a 3 points d'interrogation. C'est pourquoi Paulo Fonseca, après tout le travail qu'il a fait, se dit à un moment donné, je vais jouer en bloc bas. Je vais mettre béton avec des joueurs qui ne sont strictement pas faits pour jouer en béton. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin, Lille n'a pas des joueurs pour jouer béton, même si Alexandro a un profil très, très bataillé.
Et je crois que c'est pour ça qu'il l'a mis, en fait, parce qu'il s'est dit, il n'y a plus tellement longtemps à tenir et on va y arriver comme ça. Mais ça a été ça, l'erreur.
Mais moi, Hugo, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis et dans ce qu'a dit aussi Fonseca, c'est que ce qui me gêne un petit peu dans le discours, c'est quand il dit, ça défendait pas bien, donc, pour Zegrova, les joueurs ne jouait plus. C'est-à-dire que si lui, contrairement à Sage, n'a pas réussi à transmettre ce qu'il transmet d'habitude, puisque c'est leur intention.
Mais Florent,
c'est ça qui m'inquiète, moi.
Ouais. Je me permets de te couper, il est bien gentil, mais qu'il ne nous fasse pas croire que ce sont les joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer. Quand toute l'équipe a passé la quasi-totalité de la seconde mi-temps dans ses 30 mètres.
Je suis assez d'accord.
Tu penses que le coach au retour du vestiaire, elle a dit maintenant vous descendez d'un cran, vous attendez.
Non.
C'est aussi Lyon. Lyon a également le droit de jouer. Lyon a également le droit de se révolter. Et on sait que Lyon est très fort en réaction sur ces dernières semaines. Vous avez même dit tout à l'heure. Et c'est vrai que Lyon est l'équipe qui gagne le plus en étant menée parce qu'elle a une capacité de réaction au-dessus de la moyenne.
D'accord.
Bah donc voilà.
Pour une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, l'année prochaine, si dès qu'une équipe met un petit peu de pression et se décide à jouer en seconde mi-temps, mais n'y va pas.
Change l'entraîneur parce que c'est devenu une pipe alors.
Alors Daniel, par contre ça, je le fais pas à moi parce que je suis le premier à défendre Fonseca sur plein de choses. Mais quand on dit du bien de lui, parce qu'il fait du bien, parce qu'il fait des choses de bien, on est en droit aussi de dire quand il fait des choses de mal.
Mais on n'a pas arrêté de dire qu'il
s'est trompé sur ce match.
On n'a pas arrêté de le dire qu'il s'est trompé. Maintenant, je te dis que les joueurs ont également le droit de pas se faire déchirer de cette façon par deux centres qui sont certes des bons centres, mais qui si t'as trois défenseurs centraux, t'es capable de verrouiller quand même. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là parce que
il faut que tout le monde prenne un bout de responsabilité, même si les intentions ont pas été bonnes dans la deuxième mi-temps lilloise. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il a lui-même l'a dit. Je vais pas me cacher. J'ai pensé à ça et dans ma pensée, je me suis trompé. Il l'a dit lui-même. Je me suis trompé.
Hugo, tu as raison sur un point et la seule chose qu'on peut dire ce soir, c'est que. Et moi, je crois beaucoup quand même au message des coachs. Pas forcément le message dans le vestiaire. Quand à la 74e, il fait ce changement, il dit à ses joueurs, effectivement, on garde le score. Et ce message-là, il dit on ne joue plus, on arrête.
C'est un message. Oui, bien
donc,
sûr.
Ce message-là, il est quand même globalement, effectivement, pour cette équipe-là, en plus, qui ne sait pas trop le faire, il est un peu catastrophique. Voilà, bon, bah, ça arrive, c'est pas la fin du monde, hein. Comme a dit Létang, il reste deux matchs. Il n'y a pas le feu au lac, comme a dit Létang.
Dans un instant, on est de retour avec l'actu de veille de match avant PSG Dortmund demain soir. Paulo Breitner nous rejoindra, plus le reste de l'actu du jour avec notamment les adieux de Raymond Domenech. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h48, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là jusqu'à minuit et Paulo Breitner nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Alors tu vas nous donner les dernières infos Dortmund bien sûr, mais juste avant je vous donne ce qui pourrait être la compo du PSG demain, envoyée par Fabrice Hawkins. Fabrice, il ne s'est jamais aussi peu mouillé que ce soir, je vous le dis. Il y a des « ou » de partout dans son équipe.
Ah bah oui, c'est classique. Bon, non
Donnarumma dans les buts, il n'y a pas de « ou » dans la défense. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes. Ouais.
Il pourrait y avoir un. J'ai vu des ou par ailleurs.
Un ou quoi.
Danilo, Beraldo.
Un ou Skriniar.
Ah non, pas Skriniar.
Bah lui, il annonce Beraldo, Fabrice, donc on lui fait confiance. Au milieu.
Skriniar, il est attaché au banc de touche.
Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz ou Kanginli.
Ah oui, c'est vrai qu'Ugarte n'existe plus et c'est un mauvais joueur de foot.
Et Asensio, il ne veut pas le faire jouer là non plus. Et donc devant, Dembélé, Mbappé ou Ramos en 9. Barcola ou Mbappé à gauche.
Mmh.
Ouais, voilà les ou.
Possible de voir Mbappé à gauche avec.
Possible de le voir dans l'axe.
Oui, non, mais possible de le voir dans l'axe. Non, mais possible de le voir dans l'axe, c'est plutôt la tendance depuis quelques temps. Mais possible de le voir à gauche si Mbappé, on va dire, fait son taf, fait le job, quoi. Et voilà, et s'ils se sont mis d'accord avec Luis Enrique.
Alors justement. Écoutez Luis Enrique qui lance un message aujourd'hui.
À qui?
Je pense à Kylian Mbappé, c'est assez clair.
On a toujours un objectif commun. On essaye de faire partir le ballon de derrière jusqu'à devant. Comme c'est une équipe, on demande aux attaquants de bien finir. On est comme un orchestre. Les footballeurs peuvent être excellents, mais ils doivent défendre et attaquer. C'est le principe de base pour tous les matchs.
Voilà. Il ajoute, même les étoiles doivent défendre. Si ça, ça ne veut pas dire qu'il demande à Mbappé de le faire. Je crois que c'est assez clair. Juste avant de donner la parole à Polo, sachez par ailleurs que le CUP, le collectif Ultra Paris, était assez emballé par l'idée d'un éventuel envahissement de terrain en cas de qualif pour la finale. Et donc, ils sont allés voir le club gentiment. Ils ont dit, oui, on pourrait envahir le terrain. Et là, le club a fait, non.
Ah non, c'est une sanction un peu lourde de l'UEFA, je pense, derrière.
C'est possible. Voilà. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Enfin, on promet en tout cas une ambiance de feu.
Si j'étais supporter, tu vois, ouais. Je serais tellement superstitieux que jamais j'envisagerais ça avant le match.
Alors en fait, le bah, truc,
moi, par exemple, quand j'étais supporter de Tours, je n'osais jamais prévoir une victoire avant. J'avais peur que ça allait faire perdre.
Tu ouvres un débat, une brèche importante, et l'avis de Polo va m'intéresser là-dessus, parce que je ne sais pas comment les Allemands ont réagi. Mais depuis le match aller, en dehors du coup de frein mis par Nasser Al-Khelaifi hier, les propos des joueurs, de l'entraîneur, des supporters, on prépare déjà la fête, on prépare l'envahissement de terrain, évidemment qu'on va gagner, à 100% on va gagner, mais on est dans le truc typique de l'équipe adverse qui dit mais on n'a même pas besoin de motiver les joueurs. J'arrive dans le vestiaire, je suis tarzique, je dis bon, vous êtes au courant, ils ont déjà préparé le champagne là-bas. Mais je suis gonflé à l'hélium, quoi. Si j'entends tout ce qui s'est dit en France, je sais pas si ces propos-là, tout ce qui s'est dit depuis une semaine est arrivé en Allemagne, mais bon sang, quoi. Je trouve qu'on va un peu loin. Je veux bien croire à la qualif, je veux bien croire. Alors, j'ai vu aussi aujourd'hui papier, chez nous d'ailleurs, avec les matchs retour réussis par le PSG au Parc des Princes. Je crois que la liste, elle s'arrête à 3.
Tu veux dire qu'on aurait pu faire un papier sur les matchs retour ratés?
Bah, les matchs retour réussis au Parc avec score à retourner, bah, on connaît, hein, PSG Real 93, PSG Barça 95.
Et Bucarest?
Ouais. Et Dortmund 2020. Voilà. Donc, ça n'a pas non plus une liste de ouf. Il y a un brin d'humilité. C'est pas aussi ridicule que 2018 après le 3-1 à Madrid, avec où on avait distribué les tracts, genre venez encourager pour la remontada machin là. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode délirant, mais là, si on pouvait se calmer un petit peu, quoi, et croire en silence à la qualif, parce que évidemment, forcément, faut y croire, mais bon, Polo, c'est arrivé jusqu'en Allemagne ce délire là.
Pas trop, le Borussia est assez auto-centré sur sa propre performance. Edin Terzic a dit en conférence de presse qu'il était persuadé que le PSG allait attaquer pendant 90 minutes et allait faire mal à Dortmund et qu'ils étaient prêts à courir 20 km de plus. Donc là, je pense que c'est une référence aux statistiques du match aller. Mais c'est tout. C'est considéré en Allemagne comme le match le plus important depuis 2013 pour le Borussia Dortmund, donc la finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Tout le monde est à bloc dans le sens où le rêve continue et puis ils ont remporté la première manche, donc on va voir ce qui va se passer au Parc. On nous annonce la même composition qu'au match aller. Ça signifie que Malen, qui a été titularisé ce week-end, serait sur le banc, mais ça fait une arme de plus entre guillemets pendant la rencontre. Moi, je reste sur ce que je dis depuis le début, c'est que je pense que Paris va se qualifier sur la double confrontation maintenant et que Dortmund, pour se qualifier, devra marquer au Parc. Donc voilà, j'en suis là dans ma réflexion. Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, ils ont fait tourner au maximum ce que les 10 joueurs de champ étaient sur le banc. On a eu le droit à un festival de Marco Reus, donc on a gagné le match aller. Dortmund a gagné le match aller, donc si tu veux, tout est au beau fixe, et puis on verra bien ce qui va se passer demain soir. Ce qui est sûr, c'est que tous les joueurs sont très motivés. Il y a une eau. Mats Hummels avait été aussi en conférence de presse et avait fait comprendre que malgré son palmarès, on n'est pas tous chaque année en demi-finale d'une Ligue des Champions. Donc il faut absolument que tout le monde soit au maximum.
Bon, on verra demain, évidemment. Flo, t'as rien dit pour l'instant?
Non, mais moi je, à part cet excès de, moi je vois pas de l'excès de confiance partout. Hein. C'est toujours plutôt autour que sur l'équipe et sur le terrain, parce que Luis Enrique il a toujours fait ça. Il a dit dans tous les matchs, il instaure un aspect très positive attitude, parce qu'il estime que le club, dans son passé, a trop craint, a eu trop peur et a trop flippé avant ces matchs-là. C'est pas on est les plus forts, évidemment on va battre ces nazes de Dortmund. C'est il faut être confiant, comme il l'avait fait avant le Barça. C'est une sorte de méthode Coué un peu basique. Il y a rien de très étonnant. Moi, ce que je trouve plus effectivement surprenant, c'est de se dire côté supporter, se dire juste 0-1, finalement ça va, on va les renverser, il y a pas de problème. Non, moi je pense au contraire que effectivement le fait que Paris doivent marquer à tout prix, c'est sûr qu'il y aura des opportunités pour Dortmund, et comme dit Polo, moi, que Dortmund marque au Parc, c'est possible. Après, ils peuvent se faire éliminer aussi en marquant, hein, Dortmund. Mais après, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est de voir, moi je pense que c'est le Paris qui a les clés quand même. C'est-à-dire que si des joueurs qui n'ont pas été à leur niveau au match aller, des joueurs importants, dont Mbappé évidemment, font le match qu'ils doivent faire, je pense que Paris est supérieur à Dortmund. Très simple, c'est assez simple. C'est pour ça que si, moi je crois beaucoup à ça demain, même si Mbappé est côté gauche, mais que il fait le job comme il l'a fait parfois, comme il le fait de temps en temps, mais comme il devrait le faire tout le temps, bah, Paris peut s'en sortir. Il y avait tellement de joueurs qui n'ont pas été à leur niveau au match aller, y compris Barcola par exemple, et même si Barcola est sur le banc, ce sera un très bon impact player. Mais il faut que les joueurs de Paris soient à leur niveau. Si Paris est à son niveau et défend mieux et défend plus, je pense que Paris est supérieur.
Moi, j'ai une question. En train de moi, dire s'ils font un gros match ou un match parfait, ils vont se qualifier.
Non,
d'accord,
s'ils sont à leur niveau. Vas-y, Paul, ils l'ont pas été.
Mais moi, je voudrais savoir ce que ça
ils
veut
l'ont
dire.
Ils n'ont pas été parce que Dortmund a été énorme.
Moi, je voudrais juste ce que ça veut dire être à son niveau.
Je comprends pas.
Non, mais jusqu'à preuve du contraire, le PSG.
Mbappé qui était à son niveau au match aller.
Je comprends pas.
À son meilleur niveau.
En 11 matchs de Ligue des Champions, il y a 4 défaites du PSG.
Voilà.
Donc déjà, ce n'est pas un grand PSG.
Voilà.
Ce n'est pas si le PSG, je lui souhaite évidemment qu'ils soient en finale. Ce n'est pas une grande équipe.
Pourquoi tu penses qu'ils sont supérieurs à Dortmund alors sur la double confrontation?
Parce que je pense qu'il y a plus de qualité technique dans cette équipe, comme l'a encore montré les statistiques sur les passes réussies, etc.
Voilà.
Par contre, et j'ai dit aussi, il y a aussi 10 km d'écart couru au match aller.
Voilà.
Et 10 km d'écart couru au match aller. Oui, mais moi, je sais pas si le PSG est capable de courir 120 bornes.
Je sais pas si la qualité technique, quand tu vois les erreurs qui ont été commises, et en fait, c'est
ça
pas...
que au passage juste oui, être Flo... à leur niveau. C'était ça, c'est ce que vous voulez entendre dire.
Oui, mais le niveau de quoi?
Le niveau physique courir plus et le niveau technique. Les erreurs qu'on a faites à l'aller. Oui, mais tu me dis exactement ce
non,
que
mais le niveau technique, il est toujours le niveau technique d'une équipe est toujours dépendant de la pression et du fait que l'équipe adverse peut t'empêcher d'exercer ta technique.
C'est vrai.
Donc si tu cours, c'est pas 20, c'était je sais pas combien c'était 10. Entre 5 et 10, un truc comme ça.
10 de
moins, c'était très important. Mais même si c'est 5 de plus, ça t'empêche dans ta qualité de passe. Des mecs comme Ruiz qui sont très techniques, tu remarqueras que être technique, si tu ne le fais pas vite, si tu ne te mets pas vite en mouvement et si t'es pressé, c'est pas un mec dont la qualité technique se voit. Et d'ailleurs, dans tous les matchs de Ligue des Champions, Ruiz n'est pas bon. C'est pour ça que je pense que j'en ferai pas un choix numéro un. Peut-être qu'il jouera pas, peut-être que ce sera lié. C'est pour ça que moi j'aurais mis des mecs qui courent plus, quitte à laisser la qualité technique sur d'autres joueurs. C'est pour ça que je veux faire jouer Ugarte dans ces matchs-là. Le génie n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave.
C'est fini, les gars.
Ah, c'est fini. Bon, bah alors, on verra.
Demain, Apollo, tu seras avec nous. Deux petites infos pour finir. Buquet, l'arbitre du match de Metz ce week-end, a demandé lui-même le retrait du rouge de Mikotadze. Il l'a mis dans son rapport, donc ça devrait passer.
C'est une bonne chose.
Et Raymond Domenech n'est plus le président de l'UNECATEF.
Il était temps.
Ça y est, il s'est fait.
Remplacé par qui?
Il s'est fait putcher par Bertrand Rozeau, l'ancien directeur.
Bertrand Rozeau était en l'occurrence homme de paille. Il a été poussé par ceux qui ont putché.
Voilà.
Exactement la même chose. Moi, je pense que toute cette petite bande-là, je suis quand même curieux de savoir qui va prendre la place et ce qu'ils vont faire dans ce qui ressemble quand même pas mal à des emplois fictifs.
Demain, grande soirée Ligue des Champions, évidemment. Espérons qu'on aura demain soir à la même heure un club français en finale de la Ligue des Champions. Ce serait magnifique. Bonne nuit à tous, à demain soir.
RMC, l'after foot.